J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une amoureuse. Elle aime, mais est-ce que cela sera suffisant? Suffit-il d'aimer pour réussir à soutenir l'autre quand la maladie le diminue, l'épuise, quand la maladie change son corps, son visage, quand la maladie lui prend un sein, ses cheveux? Est-ce que l'amour suffit pour trouver les bons gestes, la bonne présence, la bonne distance? Elle fait de son mieux, elle fait ce qu'elle peut, mais il faut bien le reconnaître, la vie ne l'avait pas préparée à ça. Au fond, personne n'est vraiment prêt à ça. Les traitements, la chimio, l'envie de vomir, les médecins qui ont fait 8 ans d'études mais pas une heure de psycho, les médecins qui ne savent plus et ne savent même plus le cacher, la culpabilité de se sentir impuissant, l'angoisse de ne pas savoir quand il faut être là et quand il vaut mieux ne pas l'être, et cette souffrance de l'autre, la souffrance de son amoureuse, sa douleur qu'elle aimerait prendre, je veux prendre ta douleur mais je ne peux pas. D'ailleurs, je peux si peu, c'est fou comme je peux, peu. Et le pire, c'est cette envie de vivre. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de mon envie de vivre? Alors voilà, c'est l'histoire d'une amoureuse. Elle aime, mais que peut l'amour face à la mort qui vient, face à la mort quand elle est là? Il y a ce moment particulier dans le Cantique des Cantiques. L'amour est fort comme la mort. Fort comme la mort, pas plus fort que la mort. Ce n'est pas du tout la même chose. L'amour est mystère, la mort aussi. L'amour nous prend tout entier, la mort aussi. L'amour nous dessaisit des limites de notre ego, la mort aussi. Mais cette sagesse du Cantique des Cantiques, il arrive qu'elle s'éloigne quand on est dans le dur. Alors on hésite entre la panique pure, le découragement, et cet espoir fou que l'amour soit en fait non pas fort comme la mort, mais bien plus fort que la mort. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une compositrice, chanteuse et DJ, mais c'est surtout aujourd'hui comme écrivaine qu'elle est venue à nous. Aujourd'hui sort en effet chez Stock Toutes les vies, son premier roman, très fort, très troublant, sur une histoire d'amour et de mort. Membre du groupe Compromat avec Vitalik, auparavant de Sexy Sushi et Mansfield Tia, Rebecca Warrior est avec nous ce matin sous le soleil de Platon, et en sa compagnie, on va se demander ce que peut, au juste, l'amour, ce que peut l'amour contre la maladie, ce que peut l'amour contre la mort.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Rebecca Warrior.
Salut.
Alors je suis très heureux de vous recevoir et très 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 ému parce que moi je vous écoute depuis longtemps. Mais là, c'est pas tellement l'objet de cet entretien, c'est que j'ai entre les mains votre premier roman, Toutes les vies, qui raconte... Donc il y a écrit roman, ça ressemble quand même plutôt à un récit.
C'est de l'autofiction, donc inspiré de ma vie, mais j'ai pris beaucoup de liberté, beaucoup de largesse.
D'accord.
Des personnages réels, des personnages fictifs, c'est très mélangé.
Donc, c'est de l'autofiction, et vous racontez, donc la narratrice est amoureuse de P, qui s'appelle Pauline, et qui a un cancer, et on suit l'évolution de cette histoire avec l'espoir, la rémission, la rechute, et surtout l'histoire d'amour, l'histoire d'un couple, et de comment le couple se réinvente ou pas dans la, face à la maladie.
Tout à fait. Alors, c'est quoi la question?
Alors, je vais... j'ai pas une seule question. Je vous propose une émission un peu particulière.
Okay.
On va suivre le fil du récit
et
les étapes. Je vais beaucoup lire aussi, parce que j'ai trouvé votre écriture très intéressante. Ça m'a fait penser un peu à Guillaume Dustan, pour ceux qui s'en souviennent.
Ah bah c'est sympa.
Ou Nicolas Pagès.
Ouais.
Y a d'ailleurs beaucoup de listes, comme chez Nicolas Pagès dans Je mange un œuf.
Ouais, je suis une femme à liste.
Voilà, il y a beaucoup de listes. Et puis, la question qu'on pose quand même dans l'émission, c'est... est-ce que l'amour suffit, voilà, pour aider quelqu'un qui souffre?
Ouais, les réponses sont dans le livre, mais il y a beaucoup d'éléments qui aident à ça, quoi, comme la littérature et je pense la spiritualité, quoi, dont parle beaucoup le livre.
Tout à fait. Alors c'est ça qui est particulier dans le livre, c'est qu'on voit tout ce que vous allez chercher pour être soutenu et pour soutenir, pour aider Pauline et pour vous aider vous-même. Et d'ailleurs, vous allez chercher beaucoup de spiritualité, beaucoup de philosophie. Je prends un exemple. Cela peut paraître obscur. Donc ça, c'est au début du livre. Je vais suivre le fil pour qu'on comprenne que vous allez aussi un peu de l'Occident à l'Orient. Dans ce qui pourrait vous aider, vous partez des philosophes mâles, blancs, occidentaux. Ouais, et puis,
des stoïciens grecs, voilà. Des vieux grecs. Ouais.
Et puis vous allez quand même vers le zen, vers le bouddhisme. On va en parler. Et c'est aussi ça qui est très touchant dans ce livre. Franchement, très réussi. Mais là, commençons... par ce passage-là. Donc je vous lis, Rebecca Warrior, dans votre livre « Toutes les vies chez Stock ». Cela peut paraître obscur, mais au contraire, le yi-king aide à analyser et à prendre du recul sur les différentes situations de la vie. Il permet d'examiner les lignes de force qui sous-tendent nos comportements et d'étudier le monde dans lequel nous vivons sous un prisme ésotérique. À ce moment-là, je demandais beaucoup au livre et à Kyun de m'aider à sortir du cauchemar. Souvent, le yi-king me disait que le ravin n'était pas encore traversé. qu'il fallait être patiente et accepter les épreuves. Pourtant, je tombais tous les jours un peu plus bas dans un trou. Ça allait faire un an. Un an, donc, que Pauline était malade. Je voulais qu'on me dise à combien de mètres était le sol, quand est-ce que j'allais m'éclater la tête sur le bitume, quand est-ce que Pauline irait mieux, où est-ce que Pauline allait mourir. Je commençais à avoir des craintes, mais ça aurait été trop simple de savoir. La vraie torture, c'est d'aller chaque jour plus mal et d'être surprise qu'on peut aller encore un poil plus mal le lendemain. L'âme humaine peut dérailler à l'infini et même au-delà.
Ouais. Bah oui, c'est vrai, quand on lit le Yiking, il y a toujours ce... Enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais vous l'avez déjà fait pour vous-même ?
Un petit peu, ouais.
Ouais. Il y a toujours ce truc... ravin, traverser les ravins. Et,
ouais.
Et ils sont toujours à passer. Et le Yiking, en fait, peu importe ce qu'on demande, en fait, prône toujours la patience et l'acceptation.
Et donc, c'est aussi un livre là-dessus. Il y a des moments de colère, des moments d'acceptation, et des moments où vous arrivez à l'aider, Pauline, P., des moments où vous n'y arrivez pas. Finalement, ça dépend de quoi ?
Alors, est-ce que c'est vraiment moi, la narratrice en tous les cas ?
Oui, pardon, la narratrice. Oui.
Elle
s'appelle quand même Warrior.
Ouais, elle s'appelle Warrior, mais moi, est-ce que je m'appelle vraiment Warrior ? La narratrice, disons qu'elle essaye d'aider son amie, ça c'est clair, hein, et que tout est bon à prendre, parce qu'il y a un moment donné où je pense qu'on peut frôler comme ça quand on essaie d'aider des gens. On donne tout ce qu'on a et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'a plus rien et qu'on est prêt à mourir soi-même. Donc je pense que la narratrice va chercher tout ce qui est dans le domaine du possible.
Ouais,
autant ouais, dans le Yiking que dans les poisons, que dans des fois aussi des fausses pistes, hein, énormément dans l'alcool, dans la drogue, dans la fête, dans l'oubli. Et puis, à force de chercher, on finit par trouver des bons systèmes, probablement.
Dans les paroles des médecins aussi, quand ils sont éclairés, il y a un médecin juif très éclairant et éclairé, on va en parler. La plupart des médecins sont plutôt consternants dans ce qu'on voit dans votre livre. Alors, il y en a un qui vous dit « Les morts, il paraît que c'est un proverbe de la sagesse de l'Ancien Testament, les morts n'emmènent pas les vivants dans leur tombe.
Mm-hmm. »
Ça, c'est quelque chose qui vous aide à un moment.
C'est quelque chose, ouais, en fait, c'est tous ces dictons, tous ces proverbes, toutes ces choses qui font qu'on doit apprendre à vivre, en fait. Et que parfois, on ne sait pas toujours bien pourquoi on est encore là et pourquoi on reste là. C'est difficile, en fait, de trouver un sens à la vie. En vrai, je pense que c'est le thème de ce livre, quoi. C'est comment trouver un sens à la vie.
Et dans ce chemin, vous êtes parfois consterné par les médecins, et c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu.
Mm-hmm.
Alors attention, il y a des médecins merveilleux qui se battent, mais là, il y en a qui sont un peu en dessous de tout. je lis ce passage, on est toujours à peu près un petit peu plus loin que le début. Je me rappelle avoir demandé, donc écrivez-vous Rebecca Warrior, dans toutes les vies sorties chez Stock aujourd'hui, je me rappelle avoir demandé au toubib combien de ganglions il devait enlever et comment il savait lesquels étaient contaminés. Il m'avait fixé avec son regard de sale maquereau pourri et avait levé les sourcils. Évidemment qu'il n'en savait rien. Il en retirerait une poignée au pif et mettrait un cierge à Saint-Côme et Saint-Damien, les patrons des médecins, en priant pour qu'il n'en reste pas de contaminés après son passage. Il avait tout de même lâché que les ganglions ne servaient à rien et qu'on pouvait tout à fait s'en passer pour vivre. Comme d'un œil, en gros. Ce n'est pas franchement vital, mais c'est quand même sacrément pratique. La médecine à ce niveau, c'est du bricolage. Mais qu'y avait-il comme choix ?
C'est vrai que je suis pas tendre avec les médecins, mais je pense toujours que pendant les phases de maladie et de dureté de l'hôpital, en fait, il faut trouver des coupables et ils sont tous désignés, quoi. Voilà.
Et
donc
surtout,
je m'en excuse. Hein.
Oui, non, mais
ils nous aident aussi.
Surtout que certains sont évidemment loués. Et mais pour info, les ganglions, ça sert justement à réguler la lymphe. Et donc,
ouais.
Sans eux, on souffle martyr et on a le bras qui enfle. Et c'est ce qui va arriver à Pauline. Ça va vous faire souffrir. Et puis après, on a l'impression aussi que le sujet du livre, c'est est-ce que l'amour peut me guider pour être aidant ? Et peut-être que la réponse n'est pas oui, parce que peut-être qu'être aidant, d'ailleurs, beaucoup de réflexions sur le care vont dans cette direction. C'est pas tellement une question d'amour, mais une question de gestes très précis, presque une question de méthode au fond, et qu'on peut pas s'improviser aidant comme ça.
Ouais, moi j'ai l'impression que dans ce livre, j'essaye vraiment de parler de comment on peut passer de amante à aidante.
Ouais.
Et c'est vraiment deux boulots qui n'ont rien à voir, hein, et peut-être effectivement qui ne sont pas forcément compatibles.
Ouais. Alors après, il y a quand même des petits passages drôles. Hein. vous essayez de chercher de l'aide partout, de l'aide pour être une meilleure aidante. Et alors, vous allez chercher beaucoup d'aide chez des vieux philosophes blancs, hétéros, qui sont quand même des gens que on pourrait imaginer que vous critiquiez. Et je vous lis, à un moment, elle est en rémission. Ça ne durera pas longtemps, sans trop spoiler, je suis obligé de le dire. Et donc, vous vouliez fêter ça. Nous avions décidé de célébrer cette victoire en partant en vacances toutes les deux. Nous décollions pour la Grèce. J'ai apporté avec moi les rêveries du promeneur solitaire et les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Encore un vieux philosophe cis, blanc et mort, auquel je m'identifie sans problème. Et c'est un problème.
Et c'est un problème parce que, en plus, j'ai lu un peu sa bio. C'est une horreur, ce mec. Hein. Il a quand même fait des gamins toute sa vie qu'il a abandonné un par un. Mais bon, il a aussi écrit des choses qui m'ont intéressée et j'essaie de faire la part, j'essaie de faire le tri du bon grain. Il livrait comme avec Nietzsche, qui a des propos misogynes affreux et qui, juste à côté de ça, dit des paroles méga éclairantes et inspirantes.
Et alors justement, vous avez l'honnêteté donc, de citer ce philosophe qui a parfois été consternant et qui parfois vous aide. Donc vous citez Rousseau. « Oui, je le dis et le sens avec une fière élévation d'âme. J'ai porté dans cet écrit la bonne foi, la véracité. » Donc ce qui vous touche, c'est que c'est un des premiers à avoir écrit une autobiographie. Quelque part, l'origine du genre auto-fictionnel que
tout
vous développez
fait,
aujourd'hui.
Que j'adore, oui.
Et donc, je reprends Rousseau. La véracité, la franchise aussi loin, plus loin même, écrit Rousseau, au moins je le crois, que ne fit aucun autre homme. Sentant que le bien surpassait le mal, j'avais mon intérêt à tout dire et j'ai tout dit.
Je trouve ça génial. Il a tout dit. D'ailleurs, je pense que tout le monde le détestait aussi, mais peut-être parce qu'il a trop tout dit.
Et vous avez essayé de tout dire, vous ?
J'ai dit beaucoup de choses. J'ai pris plaisir, en tous les cas, à vraiment développer ce fil que j'avais à raconter et puis à partir un peu dans tous les sens. Voilà, ça m'a beaucoup plu d'écrire.
Et l'écriture était ce que vous vouliez faire au début, je crois, avant
ouais,
de chanter.
Ouais, ouais. Bah, je chante des textes que j'écris, donc je suis pas malheureuse. Mais c'est vrai que toute petite, je pense, je disais déjà que je voulais devenir poète.
Mon livre de Victor, sans le Calvin Klein, il me rappelle encore ses souvenirs lointains. Depuis ma femme est morte et je peux me saouler au vin de l'assassin. J'ai tué ma bien-aimée, implanté deux couteaux n'aurait pas suffi. Il m'a fallu voir grand pour lui ôter la vie. Si je vais mieux maintenant, je ne me le demande pas, mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas.
Alors, Rebecca Warrior, ça c'est un extrait de Mansfield Tia.
Ouais.
Donc c'est très beau, et c'est votre écriture, mais cette fois musicale. Du coup, c'est quoi la différence que vous avez donc découverte un peu sur le tard, quand oui. vous avez écrit ce très beau livre, Toutes les vies, par rapport à l'écriture de chansons ?
C'est très différent. J'ai l'impression d'avoir passé 20 ans à m'entraîner à écrire quelque chose d'une forme plus longue. Et je pense que le fait de m'être entraînée à écrire des lyrics et avoir un sens de la mélodie, en fait, m'a vraiment aidée à écrire quelque chose de... Enfin, j'entendais un peu les phrases dans ma tête quand j'ai écrit le livre. Ça m'a vraiment plu.
Alors, on continue à parcourir un peu l'histoire tout en gardant du mystère. Vous essayez vraiment d'être là pour elle. Parfois, il y a des crises, parfois il y a de la colère. Et puis, à un moment, il y a un adultère. Et là, la narratrice lui écrit une lettre que je trouve sublime. Et donc, si vous me l'acceptez, je vais la lire. Donc, lettre à Pauline, 2017. « Pauline, tu m'as demandé de t'écrire. Tu le sais, je t'aime. C'est vrai, je t'ai menti et j'ai passé tout ce temps à Berlin avec cette meuf. Mais en rentrant à USA, je t'ai tout déballé. J'ai déconné, c'est sûr, j'étais perdu. Je ne suis pas une machine. » J'ai sûrement mal fait, mais j'ai fait comme je pouvais. C'est presque d'ailleurs un résumé, cette phrase, hein, de ce que vous essayez de faire pour elle. Mm-hmm. J'ai petit à petit regardé dans une autre direction, sans me rendre compte du danger. C'est clair, je t'ai fait du mal, je m'excuse. Je vais te foutre la paix un moment et attendre patiemment que tu veuilles rétablir le contact. Mais inutile de m'appeler pour m'engueuler, ne pas m'écouter, me raccrocher au nez, puis m'incendier par SMS pour me dire que je ne suis que mensonge et laideur et que je te manipule. Merde, c'est raide. Ça fait 8 ans que je suis à tes côtés, que je t'aime, t'épaule et t'accompagne. J'ai tout traversé avec toi. Chaque moment, les beaux comme les moches, je les repasse en boucle depuis que tu m'as mise dehors. J'ai ressorti les photos de la Crète où nous étions si heureuses. Celle de Miami où je t'ai demandé de m'épouser. Chaque putain de matin, je me réveille en chialant avec le sentiment d'avoir échoué et d'être une enfoirée. Ma croix, je la porte. Tu me manques. Je ne te manipule pas. Nous vivons la plus dure des histoires à cause de cette maladie. J'ai été là tout le temps, focus, amoureuse et dévouée. Pardonne-moi, s'il te plaît.
C'est dur, hein ?
Franchement, c'est un très beau livre. C'est un livre très dur.
Je me rends compte quand vous le lisez comme ça que c'est quand même assez difficile, ouais. Et c'est vrai, cette histoire de croix, je pense que c'est compliqué d'aider quelqu'un qui est en train de, qui est malade et qui est en train de mourir et qu'on a une croix à porter et que je trouve qu'on... Il arrive souvent qu'on parle de la maladie, du cancer du sein, etc. Et assez peu des aidants, et je crois que c'est aussi un livre qui parle de ça. Quoi.
Ouais, et qui parle aussi des petites décisions qu'il faut prendre tout le temps.
Des petites décisions qu'il faut prendre, et puis aussi du manque de perspective qu'il y a quand on est malade. Il y a zéro perspective, donc il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de petit bonheur, il n'y a pas de plan sur la comète, il n'y a rien, il y a juste... Il y a juste, en fait, le quotidien assez difficile, quoi, des soins,
ouais,
et d'administratif.
Il y a du présent qui se répète, et comme par hasard, du coup, vous allez vers des sagesses qui essayent de nous aider à vivre le présent dans sa dureté.
Du mieux qu'on peut, ouais. Je pense que c'est la clé, effectivement, pour pouvoir supporter tout ce que la vie nous inflige, hein, autant pour les gens qui sont en guerre que pour tous les gens qui souffrent, quoi.
Et à un moment, vous découvrez la méditation.
Ouais.
Et même Christophe André, ça m'a fait rire.
Eh bien, oui, la narratrice découvre la méditation.
Oui, pardon, la narratrice. J'y arrive pas.
Vous y arrivez pas.
Non,
hein.
J'y arrive pas.
Vous y avez tout cru.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Elle découvre la méditation, elle découvre Christophe André. Bah, y a eu un moment, il y a 10 ans, où c'était vachement la mode. Donc, il y avait ça, il y avait le petit bambou.
Mais est-ce que ça lui fait du bien
Mathieu Ricard, etc.
Ouais, ça lui fait du bien, et est-ce que ça l'aide à mieux aider?
Ah bah, je pense que c'est quelque chose qui est très utile, ouais. C'est un exercice, c'est comme faire ses abdos, hein, pour moi. C'est l'abdo des pensées.
Je veux gravir du sommet avec toi, tu le sais, découvre.
c'était Compromat, Lift Me Up.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Rebecca Warrior et nous parlerons, chère Rebecca, de votre très beau premier roman, Toutes les vies, qui raconte, donc sorti chez Stock aujourd'hui, une très belle histoire d'amour et de mort, il faut bien le dire. Alors, ce qu'on vient d'écouter, c'est vous aussi, Compromat.
C'est génial, cette émission qui m'est entièrement consacrée.
Ouais, c'est la première fois que je fais ça, en fait. On écoute de la musique qui est la vôtre sans en parler et on parle de votre livre. Et ce duo, c'était vous, Compromat, avec Vitalik. Et donc, quand je parcours votre écriture, et que j'entends aussi résonner votre voix, il y a quand même quelque chose de commun. C'est-à-dire, c'est nerveux, c'est précis, ça ne ment pas.
Oui, je pense que c'est ce que j'essayais d'expliquer, que, en fait, à force d'écrire sans arrêt pour les chansons, j'ai trouvé une forme d'écriture qui a convenu pour écrire une forme plus longue. Et c'est vrai que c'est des phrases très courtes qui se passent de tous les mots inutiles.
Exactement. Mmh. Et d'ailleurs,
comme quand on chante, en fait.
Oui, c'est ça, hein. Il faut couper, quoi.
Il faut couper. Certainement, ça va pas du tout dans une chanson, donc on coupe aussi dans le livre. Du coup, c'est devenu ma méthode, ouais.
Ouais, vous avez beaucoup coupé pour arriver à ce livre très dense et très, très émouvant?
Bah, j'ai beaucoup écrit, ouais, j'ai beaucoup coupé. C'est le plus long de mon travail, c'est vraiment d'enlever, quoi, effectivement. J'aime bien les choses un peu minimales aussi.
On va écouter autre chose pour connaître aussi votre univers musical. Un morceau qui était un de vos tubes de Sexy Sushi, Sex Appeal.
Le sex appeal de la policière me fait mouiller devant, derrière.
Rebecca Warrior.
Yes.
Donc c'était vous il y a combien de temps ça?
C'était moi il y a, voilà, 20 ans, 15 ans.
Ouais.
Ouais, ouais.
Quel regard vous portez sur ce titre?
J'adore ce titre. Ouais.
Il n'a pas vieilli?
Eh ben, il me fait rire toujours et je l'assume toujours pleinement, ouais.
Eh bien, on revient maintenant à votre livre. Il y a un truc très drôle aussi qui, pour le coup, fait penser un peu à cette chanson. C'est que le couple que la narratrice, je vais y arriver, forme avec Pauline, s'identifie étrangement à Sartre et Beauvoir. Expliquez-nous ça, j'ai pas bien compris.
Et parce que c'est un couple, c'est un couple d'écrivains, je sais pas, ils envoient un peu du rêve, quoi. Si on lit les mémoires de Simone de Beauvoir, c'est vrai qu'elle raconte tout. On est vraiment à l'intérieur du groupe, et puis la narratrice explique qu'elle lit ça avec Pauline, et du coup, toutes les deux s'identifient parce que bon, bah, ils partent en voyage à Cuba, ils font des conférences, ils écrivent, et c'est une vie de rêve. Et quand on n'a pas de perspective, quand on peut rien prévoir avec la maladie, la littérature, c'est parfait pour ça.
Mais c'est un rêve. Quand on connaît un peu mieux l'histoire, c'est pas si beau que ça.
C'est pas si beau,
non,
ouais.
Non, elle servait de rabatteuse pour lui. Enfin, c'est pas terrible du tout. Mais en vérité, même l'image...
C'est comme Rousseau, hein. Il y a toujours des problèmes.
Mais l'image que vous avez, c'est quoi? C'est un rêve de liberté, de transparence, j'ai l'impression, parce qu'il s'autorisait à avoir des aventures, mais il fallait qu'il raconte et qu'il raconte tout. Franchement, ils étaient complètement tarés.
Ils avaient l'air tarés. Je pense que c'est plus pour le côté taré que pour le côté transparent.
Ouais, j'ai l'impression.
Aussi pour le côté un peu comme ça, intello, écrivain, qui vont toujours au café, qui sirotent et puis qui parlent de philo. Je pense que c'était un peu... c'est un peu ça l'échappatoire, quoi.
Alors, est-ce qu'en écrivant cette histoire, j'ai compris que c'est de l'autofiction, vous voulez être réapproprié au point d'en découvrir peut-être un sens différent et surtout peut-être de comprendre quel amour s'est joué ici?
J'ai surtout écrit ce livre pour parler vraiment de la découverte d'une certaine forme d'apaisement, et puis comme je disais aussi, de maîtriser les peurs, et puis de trouver vraiment du sens dans les petits actes du quotidien. Donc,
ouais, tout à fait.
C'est pour ça que je pense que j'ai écrit le livre, pour creuser ce sillon.
Oui, exactement. Et ça va vers l'apaisement, très progressivement. Je lis un petit extrait d'une des étapes, qu'on comprenne votre démarche, votre quête, une quête de sagesse, au fond, et d'acceptation. Donc je vous lis, Rebecca Warrior, dans Toutes les vies chez Stock, paru aujourd'hui. Hein. J'ai fini tous les livres sur le deuil. Je me mis à lire des livres sur le zen, puis sur le bouddhisme, le taoïsme, la voie du milieu. J'ai lu des dizaines de livres de poésie japonaise, haïku et waka, des vieux contes chinois ancestraux, de vieux sages japonais. J'allais à des conférences de philosophes et de moines sur la médecine chinoise, la respiration, le karma, la réincarnation, le cosmos, la littérature, les stoïciens. je m'y mis à pratiquer le Qigong, une gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle. Puis trouvé aussi un temple à Paris où pratiquer toutes les semaines le Zen Soto avec une Sangha. J'avais une intuition, celle d'être devenu bouddhiste. Cette révélation, on comprend que l'ambiguïté, c'est que ça vous fait du bien et en même temps, et le livre parle aussi de ça, il y a une culpabilité, quoi, à aller bien et à sentir en soi cet élan vital qui est presque gênant aussi.
Oui, je pense que quand, comme ça, enfin, en tout cas dans ce que je raconte, quelqu'un qui perd, qui est confronté à la mort, au deuil, etc., il y a forcément une culpabilité de vivre, hein, et que peut-être la foi et la spiritualité apaisent. Et c'est vrai que... C'est assez difficile de se dire on va continuer à vivre dans des décombres, dans des deuils, dans des situations qui sont parfois... c'est ça, on dit elles sont invivables et on doit essayer de trouver quelque chose quand même là-dedans. Donc, c'est vrai que le bouddhisme, pourquoi pas ?
Il y a un moment où...
Les stoïciens et le bouddhisme.
Oui, d'ailleurs c'est ça votre ton, vous cherchez et vous dites bah, ça pourquoi pas, ça on va le tenter.
C'est ça.
Et vous avez cette espèce de candeur. Et puis il y a un moment où Pauline semble autorisée la narratrice a continué de vivre.
C'est vrai qu'il y a ce moment où on sent comme quelque chose qui se relâche aussi de la part de Pauline qui est en train de mourir et qui dit bon, il va falloir quand même abandonner cette vie et du coup laisser d'autres gens qui vont m'avoir connue, quoi, quelque part.
Et l'extrême fin, donc je ne la raconte pas, mais elle est bouleversante et il y a quelque chose à quoi on ne s'attend pas. La façon dont ça se passe à la fin, finalement, arrive la douceur.
Vous voulez en lire un passage de cette douceur ?
Je peux, ouais.
Je ne sais pas si j'ai trouvé ça doux, moi.
Je vous lis le passage ?
Ouais, ok.
À la fin, donc, elle est morte, et puis vous essayez de revivre, et à un moment, vous faites un rêve. Elle apparaît dans un rêve, et puis de toute façon, elle apparaît partout. Et vous écrivez « J'étais apaisée et flottante quand j'aperçus Pauline. Elle était si belle, dans une immensité bleue. » Très bleu, mais aussi très austère et mélancolique. Elle était loin. Je ne pouvais ni l'entendre ni la toucher. Elle était dans un royaume dépeuplé et magnifique. Elle allait bien.
Ouais. Alors, moi, ce que je raconte, c'est effectivement, ça peut paraître être un rêve, mais c'est quand même, après avoir, la narratrice a ingurgité un poison méga violent, qui s'appelle le sapo, et qu'on trouve sur le dos des crapauds au Mexique, qui ressemble quand même fortement à du crack, donc fortement déconseillé. Et ce rêve, il est apaisant, mais après, combien de moments de torture pour arriver à ça ? Donc, j'avais envie de montrer un peu la dualité aussi.
C'est ça. Mmh. On voit aussi le balancement entre l'élan vital qui insiste et à un moment, le fait qu'on baisse les bras et qu'on n'a plus envie de rien. On n'a plus envie de rien, on est perdu, en fait, face à cette maladie. Et notamment face à sa quotidienneté.
Mmh. Oui, je pense que c'est le truc le plus difficile, quoi, de recommencer chaque jour l'inconcevable.
Et puis, sur ce chemin, il y a des étapes que j'ai trouvées très intéressantes. Alors, je voudrais qu'on évoque deux étapes où vous allez chercher quelque chose pour vous aider. D'abord, Hermann Hesse, le loup des steppes. Ça m'a beaucoup surpris que le loup des steppes arrive à ce moment-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette lecture, à ce moment-là ?
Disons que le loup des steppes, il est là comme un... C'est un peu comme Siddhartha, c'est des livres initiatiques quand même. Et je pense que toutes les vies, je l'ai voulu comme un roman initiatique, c'est une quête.
Ouais.
Donc je pense que Hermann Hesse était un peu mon exemple en termes de quête.
Mais le loup des steppes, il n'y arrive pas. Il est incompris. Et puis ce loup des steppes aussi, il a une sauvagerie et une pureté incompatibles avec la norme sociale.
Il arrive aussi à un moment du livre, je pense, qui est un moment un peu d'échec. C'est-à-dire qu'on est au bout du bout et on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, quoi. Donc, il arrive à un moment charnière, je dirais qu'ensuite, après... parce que le livre, en fait, suit des romans... on va dire chronologiquement, qui sont de plus en plus lumineux pour moi. Quoi. Et le loup des steppes, il intervient au milieu, il va y avoir un basculement.
Voilà, ensuite, c'est ça. Et c'est ça qui est passionnant à la lecture, c'est qu'on lit plusieurs histoires en même temps, l'histoire de ce couple, et puis l'histoire des lectures que la narratrice va chercher pour être soutenue, et pour réussir à être une meilleure aidante, d'ailleurs, soit pour aider Pauline, soit pour s'aider elle-même.
Ouais. Oui, oui, il y a vraiment ce soutien de la littérature. Et puis, en fait, on avance dans le livre et plus la littérature au début de Beauvoir se transforme en littérature plus philosophique avec des Shimaru, avec des auteurs zen inconnus qui sont aussi, moi que j'adore lire parce que c'est très poétique. Et puis, on comprend, comme dans le zen, on comprend tout, on comprend rien, quoi.
Mais étrangement, alors que vous êtes chanteuse, compositrice, DJ, et même que vous avez un label, on va en parler après, ce n'est pas vers la musique que la narratrice se tourne pour trouver de la force.
Non, alors elle se tourne vers la musique parce que continuer d'écrire des lyrics lui fait du bien. Mais, ouais. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. En fait, c'est juste que la musique aide, mais ne suffit pas et qu'il faut d'autres choses. Il faut plus de mots, il faut plus de poison et il faut plus de foi.
Alors continuons, après cette charnière, il y a quand même la lumière qui arrive, et notamment avec la montagne magique de Thomas Mann. Ça, c'est une page merveilleuse.
J'adore ce moment.
Ouais. Racontez un peu ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui se découvre dans le paysage, dans un avenir possible ?
Qu'est-ce qui se découvre ? Il se découvre, comme dans la montagne magique, un huis clos, en fait. Un huis clos qui va finir peut-être par s'ouvrir, quoi. Ouais, un huis clos mental aussi, ouais. Ou dans la montagne magique, Thomas Mann, il est enfermé dans un sanatorium. Il y passe plusieurs années et il sait pas vraiment ce qu'il a. Et il cherche, lui aussi en fait, il cherche des pourquoi il est là, pourquoi il va mal. Et il cherche surtout aussi à redescendre dans la vraie vie. Donc je pense que la narratrice cherche aussi à redescendre de son petit enfer.
Et alors après, peu de pages après, c'est étonnamment André Gide qui surgit pour venir vous aider.
Oui, et c'est les nourritures terrestres, parce que le personnage principal est affaibli et n'a plus envie de vivre, a manqué de se foutre en l'air, et amaigri et amoindri. Et en fait, la meilleure nourriture, c'est les nourritures terrestres de Gide, donc elle se nourrit de ça.
Et c'est quoi alors, nourriture terrestre ?
Eh ben, les nourritures terrestres, c'est ce livre que j'ai trouvé fascinant, moi, de Gide, qui est un mélange de littérature et de poésie, quand même, qui est très, très, très mystique, on va dire.
c'était Freaks, Lux, Spells.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Rebecca Warrior et nous parlons de votre premier roman, Toutes les vies, sorti aujourd'hui chez Stock, et de ce combat comme ça, chez cette narratrice qui aide Pauline, qui va mourir d'un cancer. Ce combat entre l'élan vital et le découragement. Alors il y a un moment où, après, elle est prise par la vie qui revient, comme vous l'avez décrit, et notamment, elle se met à faire plein de choses pour revivre. Elle pratique assidûment la méthode expérimentale. Et vous écrivez entre 2020 et 2022. Je me suis redressé, je me suis accroché, j'ai découvert la dune du Pilat. Je me suis fait faire une greffe de tympan. J'ai refait un disque de Mansfield Tia qu'on a écouté tout à l'heure. J'ai fait des tournées en groupe et en DJ set. J'ai monté un label du nom de Warrior Records. Yes. Et justement, je voudrais qu'on parle un peu de ça maintenant, de ce label assez militant. Qu'est-ce que vous développez dans ce label ?
Je développe la musique que j'aime, donc surtout de l'EBM, Electronic Body ouais. Music, Cold Wave, de la musique assez indus.
Et... Vous pouvez nous expliquer la différence entre EDM et EBM, c'est assez technique.
Ah ouais, ça n'a rien à voir. L'EBM, l'Electronic Body Music, ça vient des années 80, c'est un peu DAF, on va dire.
Ouais, ouais.
Et c'est le passage, en fait, de la musique acoustique, des guitares, etc., à la musique plus électronique avec les boîtes à rythme.
Ouais.
Alors que l'EDM, c'est David Guetta. Voilà, tout simplement.
Ah oui, d'accord.
Et moi, dans le label, donc, c'est plutôt la première partie, hein, plutôt Cold Wave.
Ouais.
Et New Wave aussi, et uniquement des femmes et des personnes queer. Hein, parce que c'est bien de bosser pour sa chapelle, voilà. Et qu'il n'y en a pas, c'est pas assez mis en avant.
Et donc Rebecca Warrior, est-ce que c'est pour ça, pour cette démarche de militantisme, que vous avez par exemple fait la musique du film Langue étrangère, ou la musique de la série Split d'Iris Bray, qui a d'ailleurs été à votre micro il n'y a pas longtemps ?
Ouais, bien sûr. De la musique, ouais, de Langue étrangère de Claire Burger, des Reines du drame aussi de ouais. Alexis Langlois. Enfin, c'est une collab
avec Bilal Hassani qui a aussi été à ce micro.
Voilà. Et non, je bosse surtout pour des projets engagés et queer en général. Hein.
Alors, on va écouter un extrait justement de la musique que vous avez faite pour la série Split d'Iris Bray.
Prends ma main.
Yes.
Une petite mort qui fait une vie.
Ouais.
On retrouve un peu le thème du livre.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est
la pulsion de vie et puis.
Ça revient beaucoup dans mes albums. Est vrai.
Et à la fin du livre, donc Toutes les vies, eh bien, vous citez Thomas Mann qui pose clairement la question de l'émission mm-hmm. et à laquelle on n'aura pas de réponse. Hein, je crois le rapport entre l'amour et la mort. Et donc vous citez Thomas Mann, la mort et l'amour, quelle mauvaise rime, banale et fausse. L'amour s'oppose à la mort, lui seul est plus fort qu'elle et non la raison. Lui seul et non la raison nous donne des pensées pleines de bonté. Je veux rester fidèle à la mort dans mon cœur tout en me rappelant l'esprit lucide que si elle détermine notre pensée et notre règne, la fidélité à la mort et aux choses d'antan n'est que méchanceté, volupté sinistre et misanthropie. Au nom de la bonté et de l'amour, l'homme ne doit pas accorder à la mort la moindre emprise sur ses pensées.
C'est vrai. Ça n'existe pas. Et je pense que, on devrait être potentiellement moins omnubilé, mais bon, comment faire, quoi.
Mais ce qui est dingue dans le livre, c'est que la narratrice arrive à ça après avoir accompagné donc Pauline, pendant toutes ces mois, presque des années, je crois. Mmh. Et donc, il y a comme une sagesse finale de dire que quand on aime la vie, quelque part, on ne se laisse pas dévorer par la pensée de la mort. Et alors, ce que vous avez dit, ce médecin, qui au début vous étonne beaucoup.
Oui.
Au début, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre...
Que les vivants n'emportent pas les...
Que les morts,
que les morts n'emportent pas les vivants dans la tombe.
Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très bien construit comme livre. Parce qu'au début, quand le médecin vous dit ça, Vous, vous pensez pas du tout qu'elle va mourir.
Oui, oui, la narratrice comprend pas du tout. Elle est complètement... Elle-même, elle s'énerve parce qu'elle dit « Mais pourquoi il me parle de ça ?» Ça n'a rien à voir. Hein. On n'est pas du tout dans un cas de potentiel mort.
Et finalement, il dit la vérité avec beaucoup de, ouais, de douceur et de violence mêlées. Mm-hmm. Et il vous donne... C'est complètement dingue comme scène. Parce qu'il vous donne la clé. Dès le début
ouais.
Il anticipe ce qui va se passer.
Ouais, il anticipe et puis je pense qu'à la fin aussi la narratrice comprend aussi que inutile d'avoir peur de la mort puisque on en vient, c'est la même situation dans laquelle on était avant la naissance et que du coup il y a pas de raison de paniquer quoi. Mais tout ça c'est un cheminement assez long.
Rebecca Warrior, on est sous le soleil de Platon.
Yes.
Et il se trouve que c'est justement son idée, Platon, c'est qu'au fond avant de naître nous étions dans le monde des idées éternelles, mmh, et donc nous n'étions rien en tant qu'individu, et finalement c'est cela que nous retrouvons en mourant. C'est pour ça qu'il dit philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est apprendre à se débarrasser de son corps pendant qu'on est vivant, mais quand la mort arrivera, on retrouvera en fait ce qu'il y avait avant.
Oui, c'est vrai, Deshimaru dit ça aussi, apprendre à être dans son tombeau, quoi. Et je pense que c'est vraiment l'idée centrale du livre de parler de cet endroit qui n'est ni la vie ni la mort, qui est un peu entre les deux, cet endroit dont parle aussi Jean Cocteau dans Orphée.
Exactement. Ouais. Reste à savoir si cet endroit, c'est plutôt le néant ou plutôt quelque chose d'éternellement lumineux.
Oui, alors bon, ça, chacun le pense comme il veut, mais je pense aussi que c'est un endroit, j'ajoute mon petit grain de sel, où peut-être il y a des potentielles communications entre les morts et les vivants. Moi. Donc Cocteau, il l'énonçait un petit peu avec cette idée de parler dans la Sibylle et de pouvoir communiquer d'un royaume à l'autre. Et moi, je pense qu'il y a potentiellement des systèmes pour se rejoindre, quoi.
Pour que les âmes
communiquent.
Qu'une âme en rejoigne une autre.
Mm-hmm.
De mon âme à ton âme.
Donc là, on vient d'écouter De mon âme à ton âme, un duo avec Adèle Haenel, c'est ça ?
Yes.
Et donc, c'est quoi ?
Eh bien, c'est pas de moi, ce De mon âme à ton âme. Je l'ai volé à Maître Deshimaru, qui dit Ishin Danshin en japonais. Et en fait, c'est le moyen que les zen utilisent pour parler de l'élève au disciple.
Ouais.
Et pour s'éduquer, quoi. C'est d'un élève au maître, et donc de maître à l'élève, et de ton âme à mon âme.
Mais finalement, pour se parler d'âme à âme, il faut se débarrasser de plein de choses, notamment peut-être du corps.
Ouais, notamment, ouais. Des peurs, hein, des souffrances, des désirs. Il faut se débarrasser un peu de tout. Hein.
Et c'est un peu ce que raconte le livre. La narratrice, elle a peur, elle panique, elle est angoissée, elle se sent impuissante. Et puis au fur et à mesure, il y a comme ça un long chemin.
Un dépouillement.
D'allègement, je dirais.
Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie que ce livre il soit assez minimaliste, puisqu'on balaye, on enlève les mots inutiles, on enlève tout ce qui est inutile pour pouvoir arriver à l'essentiel, ouais. Et pouvoir communiquer d'un royaume à l'autre.
Et tout à l'heure, vous disiez, je ne sais pas, moi, à quoi on revient ? Est-ce que c'est les limbes ? Est-ce que c'est la lumière ? Ou est-ce que c'est le néant ? Je trouve quand même qu'à la fin du livre, que je ne vais pas dévoiler, c'est plutôt de la lumière.
Je pense aussi, mais que pour y parvenir, il faut quand même, comme vous disiez au début, il faut quand même porter sa croix.
Et on arrive à la fin à Maître Joe ?
Oui, Maître Joe. Maître Joe le taxi, non, c'est pas celui-là.
Non.
Attendez, je le recite.
Ouais.
260. Le véritable sage, le grand homme, rassemble, réunit, mélange toute et chaque existence. Il réalise la fusion du tout, puis il crée le soi, l'esprit propre à chacun, à chacune des choses. Il fusionne toutes les existences selon son esprit. C'est trop beau, ça.
Ouais, il y a un moment où ce que vous nous laissez entendre, c'est que quand on souffre, c'est parce qu'on est séparés, en fait. Et notamment, chacun est dans son corps. Et c'est ça aussi, en fait, le livre connaît un final bouddhiste, je trouve. Parce que, d'après le bouddhisme, ce qui nous fait souffrir, c'est d'être des individus attachés à leur ego et à leur corps. Mais que si on se déprend de soi, de son individualité, de ce qui nous sépare, et aussi de son corps, finalement, bah, c'est le nirvana, on se retrouve... Et c'est ce qui est dit dans cet extrait que vous venez de lire.
C'est ça.
On fusionne tous ensemble. Alors peut-être qu'on pourrait sortir de l'opposition entre un Occident rationaliste et un Orient différent, en pensant que Platon dit un peu ça aussi. quand il dit qu'à la fin, on retrouve à ce qu'il y avait avant et que c'était cela dont le corps nous coupait.
Ouais, c'est exactement ça qui est dit. Et puis, cette idée d'être, de faire partie de chaque molécule de soi-même fait partie d'un grand cosmos. Ouais. Qu'on est les arbres, les rivières, puis le néant aussi, quoi.
Et le paradoxe, dans ce livre, très troublant, c'est que pour autant, c'est très cul. C'est très sexuel,
ouais, c'est, ça,
c'est
ouais.
très enraciné, c'est très physique. À un moment, elle a besoin quoi, de vivre comme corps. Et quelque part, cette tension n'est pas résolue.
Non, parce que je pense que c'est quand même le travail d'une vie, quoi. On peut pas. Bon, alors peut-être qu'il y a des grands sages bouddhistes qui y parviennent, mais je pense que tout à chacun, c'est plutôt quelque chose qui va, qui vient, quoi. On a cette sagesse et puis le lendemain, on la repère parce qu'on s'est écrabouillé le pied et qu'on souffle le martyr. Hein, donc, c'est pas tous les jours égaux.
Alors, Rebecca Warrior.
Bien vu.
C'est vous aussi, hein.
Ben oui, parce que je pense que c'est vraiment important d'être dans les dualités, dans les extrêmes, hein, du moins.
Je précise quand même que c'est la BO des Reines du Drame.
Ouais.
Vous êtes en duo avec quelqu'un, je crois.
Oui, avec Gio Ventura.
Donc ça, c'est pas très bouddhiste, hein, on baisera le patriarcat.
Si, ça l'est.
Pourquoi?
Mais les bouddhistes sont pour, hein, sont pour baiser le patriarcat.
Ah bon, je crois pas. Enfin, en tout cas, ils sont pour peut-être le combattre dans la douceur.
Ah oui, dans la douceur, oui. Mais on baisera le patriarcat dans la douceur, de ce point de vue, on est tous d'accord.
C'est warrior, hein, warrior, mais doux. C'est ça.
Oui, bah, c'est un combat, donc voilà, on le mène avec les armes qu'on souhaite.
On va écouter un dernier extrait de ce que vous faites pour essayer de savoir aussi qui est cet auteur.
Je précise quand même que je mène mes combats plutôt ouais, en les chantant et avec la plume qu'avec des armes.
On a bien compris. Et puis il y avait ce projet Dans le spectre, ça c'est un projet qui existe encore ?
C'était un projet éphémère que j'aimerais reprendre, un de ces quatre, ouais. Si Claire Ottaway et Omega sont d'accord.
Alors, Rebecca Warrior, c'est quand même très troublant d'écouter tout ce que vous faites et d'avoir entre les mains ce livre qui porte pour titre « Toutes les vies ». Alors, le titre, ça veut dire quoi ?
« Toutes les vies » ?
Ouais.
C'est extrait d'un bouquin de Tchekhov.
Voilà. D'accord, j'avais rien compris. Moi, je pensais que c'était le Léraïm des Juifs, puisque vous évoquez au début ce médecin juif qui vous donne le conseil, qui va vous faire tenir. Je pensais que ça voulait dire Léraïm à toutes les vies.
Oui, ça peut. En fait, je l'ai gardé parce que je le trouvais très très bien. Moi aussi, il a une consonance bouddhiste, puisque voilà. Et puis l'idée aussi, je pense qu'il y a dans le livre l'idée de vivre toutes ses vies dans une seule vie aussi, quoi, de son vivant. Donc c'était multiple et c'est pour ça que je l'ai choisi.
Merci beaucoup, Rebecca Warrior, de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, qui
Merci,
était beaucoup
Charles.
Plus celui de Hermann Hesse et de Thomas Mann et de tous les maîtres zen que de Platon. Et je vais essayer, pour vous remercier d'être venu avec nous, vous présenter ce très très beau livre, très fort. Et ben, je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qui est la vôtre, qu'on a entendue. Alors c'est compliqué, mais quand même warrior, hein, philosophie warrior, punk un peu, mais quand même punk et zen, c'est ça qui est marrant. Une philosophie pleine de colère et de paix, au cœur de laquelle on a bien l'impression que le but, c'est de trouver la paix, mais sans perdre la colère. Merci beaucoup, Rebecca Warrior. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Loïs Moreau.